Alors, je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu. Ça parle de quoi, Matthieu? De Jésus. Boy. Matthieu 28. Et j'ai quelques petites choses à mentionner encore avant de commencer. Premièrement, un besoin. Frères et sœurs, je fais appel à vous parce que Herman est venu me voir tout à l'heure. Herman, où est-ce qu'il est, Herman? Juste levé, merci. Alors, Herman veut organiser pour aider une sœur qui est seule à déménager. Et donc, il a besoin de 4 hommes cette semaine, jeudi ou vendredi. La journée est flexible. Il va s'ajuster avec les disponibilités des personnes. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réponse. Alors, la prochaine option, c'est qu'il prenne un bout du frigidaire et que cette dame prenne l'autre bout du réfrigérateur. D'accord? Fait que j'aurais besoin de 4 hommes tout de suite qui nous disent que vous êtes prêts à donner une journée. Si vous ne le faites pas maintenant, après le sermon, c'est sûr que vous allez le faire, je vous le dis. Alors, merci. 2 personnes, il m'en manquerait 2 encore, qui pourraient donner un coup de main cette semaine pour aller aider Herman. Est-ce qu'on en a 2 autres qui sont disponibles, à moins que vous soyez à Tokyo cette semaine ou au travail? Ah, bonne question. Est-ce que c'est le jour ou le soir? Après la journée de travail. Alors, après la journée de travail, donc on a une 3e personne. Après la journée de travail, est-ce qu'on a un autre brave qui peut aller donner un coup de pouce? On est rendu à 3 gars. Hop! 4! Marcel, c'est pas toi qui es supposé faire ça. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut remplacer Marcel, vous y penserez. Marcel peut faire d'autres choses que ça. Mais merci pour ton cœur, Marcel. D'autres choses à mentionner? Bien, je l'ai dit, on s'en va en vacances. On tombe en vacances pour 4 semaines. Ça fait des années. L'Église est très généreuse avec nous. On prend un mois de vacances. Et donc, on va être parti pendant 4 semaines. Je suis tout excité de partir. Mais je veux vous dire, c'est vraiment une bénédiction de servir l'Assemblée ici, de servir le Seigneur avec vous. Alors, je pars en vacances. Ce serait faux de vous dire que je ne suis pas content d'aller me reposer, qu'on n'est pas content de partir, Esther et moi, pour quelques semaines, mais j'ai déjà hâte de revenir. C'est un grand privilège de servir ici. Et donc, je voulais juste vous mentionner, la semaine prochaine, Gilles Lapierre va apporter le message de la parole. Gilles est le président de notre association. Il va apporter un message sur la prière et l'importance de prier pour l'avancement du royaume, pour les ouvriers, prier pour les missionnaires, prier pour le royaume en général. Donc, un accent pratique sur la prière. Ensuite de ça, Alexandre Marquis. Alex va prêcher les 2 dimanches suivants. Le premier dimanche, il va prêcher sur le baptême, probablement sur le sens du baptême. On va faire allusion au baptême ce matin, mais je ne vais pas m'étendre sur le sens du baptême. L'autre sujet reste à déterminer encore. Ensuite de ça, on va voir Sébastien Valade qui va venir enseigner sur l'hospitalité. J'ai pensé demander dans les prochains mois, lorsqu'on a des gens qui viennent chercher un domaine où Dieu a doué ces hommes-là spécialement, ils sont des modèles pour nous. Sébastien Valade et Chantal sont des modèles de personnes hospitalières et c'est un aspect tellement important du témoignage pour l'Évangile. Alors Sébastien, le 22 août, si je ne me trompe pas, va venir prêcher sur l'hospitalité, enseigner sur l'hospitalité. Je vais revenir ensuite et le 5 septembre, je vais être absent aussi. Et Patrice Major va venir enseigner sur le couple dans Éphésiens 5. Patrice a de nombreuses qualités, mais moi, je lui ai demandé de venir enseigner sur ce sujet-là parce que je pense que Patrice et son épouse sont de beaux exemples, de beaux modèles pour nous et ils s'appliquent à comprendre et à aider les couples. Donc, vous allez avoir un enseignement le 5 septembre sur ce sujet-là. Je voulais mentionner aussi, à titre d'information pour l'Assemblée, ce n'est pas finalisé encore, mais en même temps, plusieurs vont en entendre parler. Alors, je préférais le mentionner tout simplement. Vous savez, on a eu une réunion maintenant peut-être 2 mois, pour étudier la possibilité de louer comme en cohabitation tout notre département d'école du dimanche à une garderie. Le projet n'est pas mort, au contraire, Dieu voulant, c'est quelque chose qui devrait se signer dans les prochaines semaines. Cependant, le projet s'est déplacé. Et donc, on ne parle plus d'avoir une garderie dans notre département d'école du dimanche, mais on parle de louer toute la section des bureaux au complet, 7 jours semaine, à une garderie. Et le Seigneur semble diriger dans cette voie-là. Donc, j'aimerais vous encourager à prier pour ça. Si on peut finaliser tout ça, ça va être une belle bénédiction pour l'Église. On est content aussi de cette avenue-là. Ça laisse notre ministère libre de s'afficher à fond avec la parole de Dieu, tout ça. Donc, on est très content de ça. Évidemment, ça implique des relocalisations, mais ça, je vous parlerai de ça cet automne. Par contre, je voulais vous mentionner un autre projet qui est en discussion et qui est vraiment excitant, c'est que par le fait même, en louant tout ce département-là à une garderie, il y a un projet qui est en train de naître et qui se ferait en collaboration, en partenariat avec l'organisation de Gérard Garland, Prof Dino, un ministère qui servirait à servir davantage la communauté et les enfants du quartier et qui servirait tranquillement à l'évangélisation aussi. Donc, on est en train de regarder une possibilité pour que les locaux soient utilisés pendant la semaine. Et la beauté de tout ça, évidemment, c'est qu'on parle d'un organisme chrétien. Alors, affichez-en des versets, affichez-vous, c'est génial, c'est ça qu'on veut. Donc, on est très excités de ça, mais peut-être Karine puis Gérard vont venir nous parler de ça en septembre. Alors, je tenais à vous mentionner ça. C'est quand même un sujet de prière pour la garderie. Disons que ça finaliserait nos dossiers location et je pense que ce serait vraiment une belle grâce. Je vous mentionne aussi que Mélodie Francis s'en vient au mois d'octobre pour quelques mois. Elle s'en vient se reposer ici au Québec. Alors, c'est une sœur qui est chère à nos cœurs. J'aimerais vous demander de prier pour elle dans les prochains mois, qu'elle puisse terminer cet épisode-là puis venir se reposer. Alors, que Dieu la garde, que Dieu la protège, qu'il la bénisse et on va avoir la joie de l'avoir avec nous au mois d'octobre. On va aller ensemble dans un mot de prière avant de lire la parole de Dieu. Quel privilège, Père, de te connaître. Seigneur, je suis reconnaissant chaque jour de ce que tu es entré dans ma vie. Tu m'as arrêté dans ma folie, tu m'as arrêté dans mon aveuglement et tu es entré, Seigneur, et littéralement, tu es entré dans ma vie comme un 10 tonnes qui frappe de plein front, Seigneur. Mais quelle grâce! Quelle grâce! Seigneur, je vis une vie extraordinaire. J'aimerais que tous les gens autour de moi dans cette ville puissent vivre cette vie extraordinaire avec Jésus-Christ. Mon quotidien est passionnant parce que je vois ton royaume avancer dans mon cœur, dans ma famille, dans l'Église, et tranquillement, Seigneur, une âme à la fois dans cette région. J'aimerais te prier pour cette assemblée, Seigneur, te prier pour moi-même. Viens aiguiser notre vision de Jésus-Christ ce matin. Et viens aiguiser, Seigneur, notre vision de la mission que tu nous as confiée. Seigneur, je te bénis pour ce livre extraordinaire, l'Évangile de Matthieu, qui m'a béni plus que quiconque dans cette salle, Seigneur, à travers ces années d'études. Seigneur, je te prie que la fin de la prédication sur ce livre soit un commencement pour nous, afin que nous entrions dans cette mission à fond. J'aimerais te prier, Père, pour ceux qui sont retenus à l'extérieur à cause de la maladie. On pense spécialement à Irène ce matin, Seigneur. Et on pense à Mme Martin, on pense à tous ceux qui sont malades, qui sont retenus par la maladie, Seigneur. Nous voulons te demander de leur accorder la grâce d'avoir ce sentiment surnaturel qui vient de toi, cette paix qui vient de toi, Seigneur, ce sentiment de ta présence ce matin, alors qu'ils ne peuvent être avec nous ici pour louer ton nom. Comble-les de ta grâce, de ta paix, de ta joie, de ton repos. Qu'ils trouvent le repos en toi au milieu de la maladie, Seigneur. Père, je veux te prier pour leur rétablissement. Je te demande, Seigneur, de guérir, de venir mettre ta main sur leur corps, Seigneur, et de guérir, de faire toutes les interventions nécessaires. Père, je te prie pour leur foi et leur témoignage. Que ceux qui les entourent, Seigneur, sachent que ce malade-ci possède quelque chose qui demande une explication. Viens leur accorder cette grâce d'ouvrir la bouche pour proclamer ton évangile, Seigneur. J'aimerais te prier, Père, pour nos enfants, les enfants de cette Église, qui ne viennent pas ici avec nous pour louer ton nom, Seigneur, mais qui errent de par le monde comme des orphelins spirituels, cherchant ce qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs qu'en toi, Seigneur, cherchant la joie, la passion, le plaisir qui ne se trouvent qu'en toi, Jésus-Christ. Ramène-les à la maison, Seigneur. Ramène-les à la maison. Viens leur parler à travers les circonstances de leur vie, à travers les choix parfois bêtes qu'ils font et les conséquences que ça importe, Seigneur. Arrête-les dans leur folie. Comme tu l'as fait pour chacun d'entre nous, comme tu l'as fait pour moi, ramène-les à la maison, Seigneur. Sauve leur âme s'ils ne te connaissent pas. J'aimerais te prier, Seigneur, pour ceux qui nous ont quittés, qui se sont éloignés, parce qu'ils ont ralenti la course, Seigneur, se sont laissés envelopper par un péché ou un autre, ont décidé d'amener une autre passion dans leur vie que toi, ont accepté, Seigneur, qu'une passion devienne une idole, que cette idole prenne ta place. Et ils ne sont plus, Seigneur, ici. Je te demande de les ramener eux aussi à la maison. Et Seigneur, pour toutes ces personnes, que ce soit les gens malades, que ce soit nos enfants, que ce soit ceux qui se sont égarés à l'extérieur, nous sommes disponibles, Seigneur. Nous désirons être des outils entre tes mains pour pouvoir les aimer au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi de ton Esprit Saint ce matin, je t'en prie. Que ta parole soit prêchée avec vérité et avec la puissance, Seigneur, qui est digne de ton nom. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Matthieu 28, versets 16 à 20, je vous en fais la lecture. Cinq petits versets, la conclusion de l'évangile de Matthieu. Matthieu 28, 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quand j'ai commencé à étudier le passage, une des choses qui m'a frappé, c'est la brièveté. La conclusion de l'évangile de Matthieu est extrêmement courte. D'accord? Matthieu consacre 20 versets à la résurrection. Matthieu a consacré 131 versets à partir du moment où Jésus prend le dernier repas avec les disciples, à son arrestation, son agonie même dans le jardin de Gethsémané, son arrestation, sa crucifixion, 131 versets. Et on arrive à la résurrection. La résurrection, c'est en français le climax. Vous comprenez, c'est extraordinaire. Christ a vaincu la mort. 20 versets. Matthieu nous ferme ça vite, 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 et le livre est terminé. Lorsqu'on va voir les autres évangiles, par exemple, l'évangile de Luc consacre 53 versets à la résurrection et à l'ascension. On a beaucoup plus de détails dans l'évangile de Luc. Et même Luc continue un peu dans le livre des Actes des apôtres. C'est un peu Luc 2, d'accord? Le livre des Actes écrit par Luc aussi. Et donc, c'est un peu la continuité. On a encore 8 versets sur ce moment après la résurrection de Christ. Lorsqu'on va dans l'évangile de Jean, Jean consacre 56 versets à la résurrection dans son évangile. Mais Matthieu, pourtant, complète son évangile en 20 versets, consacre 20 petits versets. Et lorsqu'on lit le passage, pas seulement les 5 versets que je viens de vous lire, un petit peu avant, lorsqu'on lit ce passage, on a l'impression que l'accent n'est pas autant sur la résurrection que sur la mission qui nous est confiée. Ce qui ressort lorsqu'on est en train de lire ces 20 versets-là, ce qu'on entend, c'est « J'ai toute autorité, je vais vous accompagner spirituellement tous les jours. Hop, 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 allez faire des disciples. » Et c'est ça le feeling qu'on a lorsqu'on lit. On a vraiment l'impression, il ne bâcle pas la fin, mais il boucle très, très vite. D'où le titre de la prédication, « Go! » C'est ça qui sort. En passant, Oscar, je l'ai dit sur le Facebook, Oscar a fait énormément de retouches sur notre type au porte-voix. Okay, alors, pendant la prédication, ne cherchez pas c'est quoi qu'il a fait, mais vous trouverez c'est quoi l'erreur. Et pour ceux qui sont vraiment curieux, ceux qui ont accès, vous irez voir sur Facebook, on a mis un making-of cette semaine. C'est juste comique de voir ce que Oscar a fait comme magie avec Photoshop cette semaine. Mais on revient à Matthieu. Les 5 derniers versets de l'Évangile de Matthieu sont brefs, efficaces, précis. Matthieu ne tourne pas autour du pot. Il nous pousse en bas du nid, littéralement. Et c'est ça le feeling, d'accord? Matthieu nous pousse en bas du nid pour qu'on puisse s'envoler à notre tour et entrer dans la mission. En gros, l'Évangile de Matthieu, Matthieu consacre les 25 premiers chapitres. 25 chapitres. À nous dire deux choses. Il nous fait connaître qui est Jésus-Christ dans ces 25 chapitres-là et il nous explique comment vivre si on veut marcher à la suite de Christ. En gros, c'est ça, 25 chapitres à nous dire qui est Jésus-Christ et comment vivre si on veut être ses disciples. Chapitre 1 à 25 de l'Évangile de Matthieu. Matthieu 26, 27. Il nous raconte le sacrifice extraordinaire que Christ a accompli en donnant sa vie à la croix. N'est-ce pas pour permettre que la malédiction qui repose sur chaque pécheur, malédiction divine, puisse être retirée. Deux chapitres à nous raconter cela. Et ensuite, on arrive à la fin et Matthieu va consacrer un petit chapitre et seulement 20 versets à nous raconter la résurrection. Alors, après nous avoir dit qui est Jésus-Christ, après nous avoir montré comment vivre pour lui ressembler, nous avoir raconté son sacrifice à la croix, c'est comme si Matthieu ne sent pas le besoin de s'étirer plus longtemps. Tout a été dit. Jésus est ressuscité, il est vivant, c'est beau, c'est important que vous le sachiez. Maintenant, passez à l'action. Go! Et c'est vraiment ça le feeling lorsqu'on est en train de le lire. Passez à l'action à votre tour. Et je me sens un peu comme Matthieu. J'ai fait un espèce de décompte. Ce matin, je termine l'Évangile de Matthieu. Savez-vous quand est-ce qu'on a commencé l'exposition de l'Évangile de Matthieu? Quelqu'un qui a une idée? 2 ans et demi, hein? presque. En 2007, on a commencé avec Normand l'exposition du livre de Matthieu. En fait, le 25 février 2007, 3 ans et 5 mois aujourd'hui que nous sommes dans Matthieu, d'accord? Alors, Jessica m'a fait un petit commentaire. Elle m'a dit, Yannick, où est-ce qu'elle est, Jessica, là? Jessica a dit, tu sais, est-ce que tu pourrais faire une série comme plus courte pour la prochaine? J'ai entendu dire, Jessica, je t'ai écouté. J'ai passé 3 ans et 5 mois sur 28 chapitres. Je m'enligne pour Ésaïe, 66 chapitres pour la prochaine série. C'est bon? Non, je fais des blagues. Bon, il y a eu quelques séries à travers ça. Mais on a passé 3 ans et 5 mois dans l'Évangile de Matthieu. Et pour moi, personnellement, je l'ai mentionné dans la prière, ça a été un voyage absolument extraordinaire. Mon évangile préféré, en principe, c'est l'Évangile de Jean. Depuis toujours, depuis l'année de ma conversion, c'est mon livre préféré dans la Bible, l'Évangile de Jean. Je ne suis plus certain maintenant. C'est un livre extraordinaire, l'Évangile de Matthieu. Et je n'aurais jamais pensé être aussi bouleversé, être aussi transformé et tomber en amour avec cet évangile à ce point-là. C'est vraiment un livre extraordinaire. Pour moi, ça a été un voyage génial à vivre. Mais je me sens un peu comme Matthieu. C'est comme si je me dis, on a passé 3 ans et demi à regarder Jésus vivre, puis à essayer de comprendre comment est-ce qu'il a pu avoir un tel impact dans sa génération, quelle sorte de vie folle il menait, quelle sorte de vie spécial, bizarre, il menait. On a passé 3 ans et demi à le regarder. J'ai le goût de passer à l'action maintenant. Je me sens comme un coureur qui est sur la ligne de départ et je me sens comme Matthieu. Pour moi, mon sentiment est très bien ajusté avec la fin de l'évangile de Matthieu. Je me sens comme un coureur qui est sur la ligne de départ qui dit « Est-ce que je peux partir maintenant? » Maintenant, je m'en vais me reposer 4 semaines, trouver un peu plus d'énergie si c'est possible, puis je reviens après. Alors, vous êtes mieux d'être prêts. Parce que moi, je suis prêt à partir tout de suite, je vous le dis. Et j'ai ce sentiment-là avec l'Église aussi. Vous savez, on est déjà beaucoup engagé dans la mission. On fait de la formation de disciples ici à l'Église. On en fait sérieusement, avec cœur, avec passion. On a 50 de personnes qui sont impliquées à se rencontrer à peu près aux 2 semaines, à passer 2 heures ensemble à étudier les Écritures. D'accord? Sur une assistance comme ici, 1 personne sur 3, 1 personne sur 4. Alors, autour de vous, il y a quelqu'un qui est impliqué à faire du coaching, de la formation de disciples de manière très intentionnelle et très sérieuse, soit en formant des leaders, soit en formant des nouveaux chrétiens. Donc, on est très sérieux. On a 17, 18, 19 petits groupes qui se réunissent à chaque semaine pour étudier la parole de Dieu et voir comment les messages viennent s'appliquer dans nos vies. Nous sommes déjà très sérieusement engagés et pourtant, j'ai le désir de voir dans ma vie et dans l'Église que nous passons à la 2e vitesse. Amen. Qu'on entre dans cette mission-là, qu'on puisse voir la moitié de l'Église engagée à former des disciples, mais que toute l'Église soit engagée dans cette mission-là d'une manière ou d'une autre. Et donc, j'ai ce sentiment, le même que Matthieu, qu'on a tout vu, qu'on a tout dit et que c'est le temps de passer à l'action. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous révèle dans ces brefs 5 versets? 5 versets très courts, mais quels versets? En gros, 2 choses. Deux choses, les 2 seules à retenir. Retenez ça jusqu'à la fin du monde et vous allez être toujours dans le plan de Dieu. Premièrement, la gloire absolue de Jésus-Christ. La gloire absolue de Jésus-Christ. Deuxièmement, votre mission. 2 choses à retenir de ces versets. Matthieu termine. Brièvement, il veut pas s'étirer, il veut pas aller dans toutes les directions de peur que son message commence à se diluer. Et il y a 2 choses qui ressortent de ces 5 versets. La gloire absolue de Jésus-Christ et notre mission. C'est tout. Matthieu nous dit, retenez ces 2 choses-là jusqu'à la fin du monde. Et vous allez éviter toutes sortes d'écueils. Vous ne vous écarterez pas de Dieu. Si l'Église peut retenir ces 2 choses-là, d'accord? Chaque jour, la gloire absolue de Jésus-Christ et la mission qui nous est confiée. Et si l'Église de l'espoir peut garder ces deux éléments-là en tête, je vous le dis, on va éviter des dizaines et des dizaines d'écueils. Nous allons éviter de tomber dans la religiosité. Nous allons éviter de tomber dans la paresse, dans la léthargie. Nous allons éviter de nous endormir. On va éviter de tomber dans le légalisme. On va éviter de se construire un petit système pour se justifier. On vient à l'Église pour se donner bonne conscience. La gloire de Jésus-Christ, la mission, gardons ça en tête, les amis. 2 choses. Maintenant, on va développer un petit peu tout ça ce matin. Mais si l'Église peut garder ces 2 choses-là en tête, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin, on va éviter des dizaines et des dizaines d'écueils. Et Dieu sait qu'au retour de Christ, on va se tenir droit. On va chanter ses louanges ensemble. Premièrement, la gloire absolue de Jésus-Christ. Deuxièmement, notre mission. Après ça, Matthieu n'a absolument rien à rajouter. Jusqu'à la fin du monde. Alors, premièrement, la gloire de Jésus-Christ dans le passage. Regardez les versets 16, 17. 16 et 17. Matthieu 28, 16, 17. Jésus a donné sa vie sur la croix et à présent, il est ressuscité. D'accord? Il est ressuscité, il est là physiquement devant eux. Quand les disciples le voient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vois un type qui était avec toi il y a quelque temps. Tu l'as vu faire des miracles pendant plusieurs années. Il y a une parole et une sagesse extraordinaire, comme aucun homme que tu as entendu parler avant. Maintenant, cet homme-là est arrêté, il est battu, tu ne comprends plus rien de ce qui se passe. On le crucifie. 3 jours plus tard, il est là debout devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te jettes à terre puis tu l'adores. Les disciples font la seule chose sensée à faire lorsque tu te retrouves devant Jésus-Christ. Tu te courbes et tu adores. Voici la gloire de Jésus-Christ. Consacrer nos cœurs et nos vies à adorer celui qui est venu donner sa vie pour nous, qui a vaincu la mort pour nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, il y a toujours des personnes à qui il faut faire un dessin. C'est vrai? Et comme de fait, Matthieu nous dit, il y avait encore ce jour-là des gens à qui il fallait faire un dessin. Le passage que Matthieu dit lorsqu'il dit qu'ils eurent des doutes, il n'est pas en train de dire qu'ils ont été opposés, franchement incrédules. Le terme est beaucoup plus doux que ça. Mais il y a des gens qui étaient là, quelques-uns d'entre eux, peut-être d'autres que les onze aussi, parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là, on ne sait pas. Mais une petite hésitation. Et puis ils avaient comme, OK, c'est vrai là, ça? Il y en a toujours qui ont besoin qu'on leur fasse un dessin. Toujours. Maintenant, si tu as lu les évangiles sérieusement avec application, si tu as vu l'impact de l'évangile dans la vie de chrétiens autour de toi, est-ce que tu es de ceux qui ont besoin qu'on leur fasse un dessin pour saisir qui est Jésus-Christ? J'espère que non. J'espère que non. J'espère que non. Mais Matthieu veut nous le dire, il va toujours y en avoir. À qui il va falloir faire un dessin, ils vont avoir des doutes. Encore des hésitations. Les autres sont venus et puis ils ont commencé à l'adorer. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit à Thomas, c'en était un à qui il fallait faire un dessin. Lui, c'était une sculpture plutôt. Ouais, qui touche. Dans Jean 20, 29, Jésus dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Voyez-vous, il y aura toujours des gens qui vont se dire, si j'avais été là et si j'avais pu voir Jésus et toucher à Jésus, là je croirais. C'est faux. C'est faux. Regarde l'attitude des souverains sacrificateurs. Ils ont un rapport fait par les soldats que le tombeau est vide. Ce qu'ils auraient dû faire s'ils avaient été un tant soit peu de bonne foi, c'est courir pour trouver les disciples et dire, qu'est-ce que vous avez fait avec lui? Parce qu'on veut le voir, là. Là, j'arrête de me battre, là. Je veux croire, moi. Si je peux juste le voir, c'est réglé, là. Même pas. Et encore, à ce moment-là, il y en a des disciples qui sont là, qui ont probablement cru après, mais ils ont eu encore des doutes. Il est là physiquement devant eux. Voici le cœur humain. C'est faux de croire qu'automatiquement, si tu avais eu la possibilité de le voir, de le toucher, tu aurais cru. C'est faux. Ça ne représente pas la réalité du cœur humain. Lis les évangiles. Demande-lui de se révéler à toi. Demande-lui de parler à ton cœur. Et au moment où tu vois Jésus-Christ dans toute sa gloire, fais la seule chose sensée à faire. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Maintenant, le verset 18. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus était déjà un être éminemment puissant. Êtes-vous d'accord avec moi? Dans l'évangile de Matthieu, avant sa mort, avant sa résurrection, la puissance de Jésus-Christ a été manifestée d'innombrables fois, de manière absolument extraordinaire. Mais Jésus est en train de dire ici, il y a quelque chose qui s'est passé de spécial ici. Mon Père a agréé le sacrifice. Il y a eu une intronisation. On m'a confié officiellement tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. On parle de toute puissance ici. Si vous êtes familier avec les Écritures, le Tout-Puissant, c'est Dieu. Alors, hormis Dieu le Père, il n'y a personne au-dessus de Jésus-Christ, car tout pouvoir, littéralement la toute-puissance, lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Lorsqu'on saisit cela sur Jésus-Christ, on peut avoir du respect pour certains écrits de Confucius, on peut avoir du respect pour certaines vérités qu'on va trouver peut-être dans le Coran. Mais je veux dire, lisez le Coran puis lisez les évangiles. Je suis désolé. C'est incomparable. C'est incomparable. C'est à Jésus-Christ que tout pouvoir a été confié. Parce que c'est lui qui a été agréé. C'est lui qui a été agréé par Dieu à ce moment-là. Et ici, Matthieu et Jésus sont en train de faire allusion à un passage important dans les livres prophétiques de l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, et on va juste afficher le verset ici, s'il vous plaît, dans Daniel 7, d'accord? Écoutez bien ce qui est écrit dans Daniel 7. Daniel 7, les versets 13 et 14. Voilà. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Et il faut savoir, si vous vous joignez à nous pour la première fois ce matin, que Jésus se sent régulièrement de ce titre-là, le fils de l'homme, pour parler de lui. Quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, il s'avança vers l'ancien des jours. Je vous laisse deviner c'est qui l'ancien des jours, OK? Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, toutes les nations et tous les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Voyez-vous, cette prophétie de Daniel est en train de s'accomplir. Elle commence à s'accomplir ici. Nous allons voir la fin de son accomplissement au moment du retour de Jésus-Christ. Il en parle dans Matthieu 24. Il parle de son retour. Et à ce moment-là, nous allons voir la fin de l'accomplissement de cette prophétie. Mais nous avons ici le début de l'accomplissement de la prophétie. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Il n'y a personne dans le monde visible et dans le monde invisible, aucun être qui soit au-dessus de Jésus-Christ, sinon le Père. Voici la gloire absolue de Jésus-Christ. Jésus-Christ a accompli pour la gloire de Dieu et le rachat de nos âmes ce que personne n'a accompli et personne ne pouvait accomplir. Il fallait que ce soit le sacrifice de Jésus-Christ, le juste, le Fils de Dieu, pur et parfait, qui vient de se livrer sur cette croix pour nous. Regardez encore le verset 19. Il s'agit du passage le plus clair sur la Sainte Trinité dans tous les évangiles. Le verset 19. Nous sommes appelés à baptiser ceux qui croiront en Jésus-Christ au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on entendait parler de l'Éternel, on entendait parler de l'Esprit de Dieu, et on comprenait que l'Esprit de Dieu est Dieu, sans comprendre exactement comment tout ça fonctionne. Et on arrive ici, et une troisième personne est placée là, dans cette Sainte Trinité, dans la personne de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ nous dit que son nom est digne d'être placé côte à côte avec celui du Père et celui de l'Esprit. Nous baptisons les gens, non au nom de Jésus seulement pour imiter Jésus-Christ, mais nous baptisons les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous les baptisons au nom de la Sainte Trinité. C'est un mystère pour nous de comprendre comment ces trois personnes sont Dieu, sont une personne même. Mais le Fils de Dieu est absolument glorieux parce qu'il fait partie de la Sainte Trinité. Et vous ne trouverez aucun prophète dans une autre religion, vous ne trouverez aucun homme sur la terre qui mérite, qui est digne de faire partie de la Sainte Trinité. Un seul homme y est, c'est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu incarné. Et nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au début de son évangile, Matthieu avait annoncé par la bouche d'un ange le titre qu'on pouvait accoler à Jésus, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. On savait déjà qu'avec Jésus qui venait, Dieu venait marcher au milieu des hommes. Lorsqu'on arrive à la fin de son évangile, Jésus nous dit lui-même, « Dorénavant, vous allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dieu le Fils, Dieu le Fils. Mais ce n'est pas tout. On parle de la gloire de Jésus-Christ. Regardez le verset 20. Il y a quelque chose ici qui relève vraiment du domaine divin dans le verset 20. Jésus dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est long, avec tous ses disciples. Et il y a quelque chose de cet attribut divin qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Dieu est partout à la fois. Il y a de ceci en Jésus-Christ. Bien sûr, Jésus est en train d'annoncer la venue de son Esprit et c'est par l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ qu'il est avec chacun de ses disciples partout sur la terre en même temps. Mais d'une manière bien réelle, où que vous soyez sur la terre. Moi, je vais être à Rivière-du-Loup cette semaine et Jésus-Christ va être avec moi. Il y en a qui vont être ici, il y en a qui vont prendre l'avion, qui vont partir, qui vont s'en aller ailleurs. Il y a des millions de chrétiens actuellement sur la terre. Et d'une manière bien personnelle et individuelle, Jésus-Christ est avec nous par son esprit, par l'esprit de Christ. Et il y a quelque chose de cette qualité divine, l'omniprésence de Dieu en Jésus-Christ. Seul Dieu peut faire cela. Même l'ennemi de nos âmes, le diable, ne peut pas faire ça. Et Jésus-Christ peut le faire. Et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En résumé, voici la gloire de Jésus-Christ présentée dans les 5 versets, d'accord? Il est ressuscité d'entre les morts et il est digne d'être adoré. C'est ce que les disciples de Jésus-Christ font, ils l'adorent. C'est ce que nous faisons. Lorsqu'on vient ici, nous ne faisons pas que raconter l'histoire de Jésus. On ne fait pas simplement dire « Jésus est grand, Jésus a fait un sacrifice merveilleux, Jésus est fantastique, c'est un modèle à imiter. Moi, je voudrais lui ressembler, je voudrais parler comme lui. » Non seulement on fait cela, mais on l'adore. Comme on adore Dieu, puisqu'il est Dieu le Fils. Voici la gloire de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ l'adore. Il est aussi tout-puissant. Le seul qu'il surpasse est Dieu le Père. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Il est une personne à part entière de la Sainte Trinité. Nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est omniprésent puisqu'il est avec tous ses disciples partout sur la terre, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici la gloire de Jésus-Christ. Gardez la gloire de Christ devant vos yeux jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Vous voulez connaître Dieu, vous voulez comprendre Dieu, saisissez qui est Christ. Cette semaine, j'étais en train de lire une plaquette qui a été écrite par Blaise Pascal. Je partageais ça à ce temps hier. Blaise Pascal, philosophe, mathématicien, un homme extrêmement brillant, un homme qui croyait en Jésus-Christ. Je ne suis pas sûr que tout était clair dans sa tête. Je pense qu'il y a des petits bouts, il était un peu mélangé. Lorsque Blaise Pascal est décédé, un des domestiques, Blaise Pascal écrivait des notes partout, hein, il griffonnait. Si jamais vous lisez les pensées de Blaise Pascal, c'est une espèce de recueil de toutes les notes qu'ils ont trouvées partout dans son bureau. Puis on a essayé d'organiser ça. Il y avait un projet d'écrire quelque chose de structuré. Il ne s'est jamais rendu jusque-là, d'accord? Mais lorsqu'il est décédé, un de ses domestiques, dans ses vêtements, a trouvé cousu. Dans son vêtement, c'est assez spécial, il était spécial. Dans son vêtement, 2 feuilles de papier qui disaient exactement la même chose. Et ce qu'ils ont compris, c'est que chaque fois qu'il changeait d'habit, secrètement, lui seul, il décousait ça et le remettait dans son autre habit. Et on a de résumés sur ces 2 feuilles, on les possède, d'accord? On a ce qui est écrit là. Nous avons sa déclaration de foi, littéralement. Et en quelques lignes, Blaise Pascal dit, « Le seul moyen d'aller vers toi, mon Père, c'est à travers la personne de Jésus-Christ. » Gardez les yeux fixés sur la gloire de Jésus-Christ. Gardez ça comme Blaise Pascal, tout près de votre cœur, avec vous tous les jours. Gardez les yeux fixés sur Christ. Vous allez être prêt à quitter ce monde. Et vous allez éviter un paquet d'écueils, à suivre des modes, des penseurs, des gens qui vont vouloir détourner vos regards de Jésus-Christ. En lui, nous avons toute la divinité qui est là. Car il est Dieu le Fils, la gloire de Jésus-Christ. Deuxième chose à retenir, parlons de mission à présent. La mission qui nous est donnée. En gros, ce que Matthieu dit, c'est le temps de bouger. Go! Et c'est pour ça que c'est court. Pour entrer dans cette mission-là, il va falloir aller. Allant, faites de toutes les nations des disciples, il va falloir bouger. D'une manière ou d'une autre, on ne pourra pas rester en place si on veut entrer dans cette mission. Il va falloir le faire en mouvement. Certains vont partir à Rivière-du-Loup implanter une église, d'autres vont aller au Honduras, d'autres vont aller ailleurs un peu partout sur le monde, vont partir pour le Chili. La majorité d'entre nous, on va avoir à bouger, mais bouger ici. Mais il va falloir bouger. soit bouger en ouvrant notre maison pour inviter des gens à entrer dans notre vie. Je l'ai dit tout à l'heure dans la prière, je le disais à Michel dernièrement lorsqu'on était en train de déjeuner ensemble, je vis une vie tellement plus excitante que les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas Jésus-Christ. En fin de semaine dernière, on était avec des gens qui sont super le fun, des belles valeurs familiales. Mais leur objectif dans la vie, c'est quoi? C'est de bien élever leurs enfants, de coller de l'argent pour pouvoir partir en vacances, de s'acheter une roulotte puis s'assurer d'avoir une retraite. OK, mais après, ça sert à quoi ça finalement? Où tu t'en vas avec ça? Ma vie à moi est beaucoup plus trépidante que ça. Parce que chaque jour, je vois dans mon cœur les choses que Dieu place sur mon cœur. L'amour qu'il me donne pour des gens, des vies que je veux, sur lesquelles je veux avoir un impact. Chaque jour, Dieu est en train de me montrer comment je peux pardonner, comment je peux demander pardon, comment je peux essayer de gagner des âmes pour Jésus-Christ. Ma vie dépasse 4 semaines de vacances, vous comprenez? Mon objectif, ce n'est pas de coller assez d'argent pour, lorsque je vais être vieux, pouvoir prendre des vacances dans le sud. C'est correct. Ça va. Et après? Non, moi, je suis en train de planifier pour l'éternité. Chaque jour, je vis ma journée en perspective de l'éternité. Mais pour ça, il va falloir bouger. Il va falloir que vous bougiez de votre place, soit en ouvrant la porte de votre maison, soit en allant vers des gens. Vous allez devoir être dérangé. Et si vous n'avez pas saisi ceci dans la vie de Jésus, relisez l'évangile de Matthieu. Je sais, vous allez me dire, c'est un célibataire. Il n'y avait aucune responsabilité, Jésus. C'est correct, vous lirez les évangiles. Il y avait plus d'enfants à prendre soin de vous, je vous l'assure. Mais allez lire les évangiles et voyez que cet homme-là se laissait constamment déranger. Constamment, il était en dérangement. Et donc, il va falloir bouger pour entrer dans cette mission. Certains vont partir, d'autres vont rester, mais on va avoir à bouger, il va falloir faire de la place, trouver de l'espace pour pouvoir entrer dans cette mission. Cette mission-là traverse toutes les barrières culturelles et ethniques. Quand il parle des nations ici, il ne parle pas des pays, il parle des peuples. Il n'y a pas quelque chose de semblable à des barrières ethniques pour l'Évangile. Ça n'existe pas dans l'Évangile. Dieu a appelé des élus de toutes les nations, de tous les peuples de la terre, et par la grâce de Dieu, ils sont tous en train de s'en venir au Québec. Il n'y a pas de barrière, vous comprenez? Et donc, il va falloir faire de la place aussi pour les autres ethnies, les autres peuples, et trouver l'amour de Christ pour eux et aller leur apporter au nom de Jésus-Christ. Notre mission nous demande de faire tomber quelles que soient les barrières. Alors appliquez-vous à chasser tous vos préjugés que vous avez. Ce que vous avez devant vous, c'est quelqu'un de différent qui est pécheur comme vous. Différent, mais tellement semblable à vous. Tellement semblable à vous. Qui a besoin de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Notre mission, c'est d'aller vers quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Écoutez bien ceci. Notre mission, c'est d'aller vers les nations. Vous savez, souvent, lorsqu'on pense à faire de la formation de disciples, on est en train de dire, OK, je vais chercher un chrétien dans l'Église, puis je vais faire de la formation de disciples. Ce n'est pas ça que Matthieu dit. Hein? Évidemment, on va le faire. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui a besoin que je m'investisse dans sa vie, puisqu'il dit qu'il faut leur apprendre à observer tout ce que j'ai prescrit, on parle du long terme ici, c'est bon? Fait qu'après la profession de foi, il faut s'investir dans ceux qui sont chrétiens. Il faut prendre soin de ceux qui sont à l'intérieur pour leur apprendre à être de plus en plus comme Jésus-Christ. Mais le défi qui est lancé ici, c'est d'aller vers les non-chrétiens. Alors, mon mandat à moi, ici au Québec, à Longueuil, c'est d'aller vers quelqu'un, puis de lui parler d'une personne qui a vécu v'là 2000 ans. D'accord? Cette personne-là a vécu 2000 ans, puis elle avait une barbe ça de longue, probablement. Elle marchait en gougoune. Elle n'avait aucune idée c'était quoi un ordinateur. Et je dois, par la grâce de Dieu, dire à cette personne-là, cet homme-là, qui est probablement un mythe pour toi, multipliait des pains. Il faut que tu croies ça. Là. Il multipliait des pains, d'accord? Lorsqu'il touchait un malade, pouf, la personne se mettait à marcher. Maintenant, cette personne-là était le Fils de Dieu. Ce n'était pas juste un homme. Il a été crucifié, mais il est aussi ressuscité. Est-ce que vous voyez un petit peu le défi, là? Il y a des choses qui ne passent pas. On vit en 2010. Maintenant, cette personne-là a vécu, elle est morte crucifiée, elle est ressuscitée. Aujourd'hui, elle vit encore, il est au ciel. Il est invisible, mais il faut que tu crois en lui. Parce que si tu ne crois pas en lui, tu vas aller en enfer pour l'éternité. Ça, c'est ma mission, ça, c'est votre mission. Je vais aller vers des gens et leur dire ça. Est-ce que je peux me permettre de vous dire, au-delà du message que nous avons à proclamer, qu'il va falloir que notre vie ressemble un petit peu à Jésus-Christ pour que le message devienne crédible? Il va falloir que notre vie, d'une certaine manière, soit aussi folle que la vie de Christ. Autrement, ils vont nous dire, c'est cool, tu te sens mieux, j'en ai pas besoin, continue à prendre tes médicaments et ta Bible. Vous comprenez? Il va falloir que ma vie demande à être expliquée par l'Évangile. Il va falloir qu'il y ait quelque chose d'intriguant dans ma vie. Alors, je vous donne quelques clés cette semaine. Trouvez-vous un ennemi à aimer. C'est bon? Trouvez-vous un ennemi à aimer. Trouvez-vous quelqu'un que vous haïssez. Y en a-tu? Non, hein, y en a pas. Trouvez-vous quelqu'un que vous n'aimez pas beaucoup. Tu sais, je ne l'haï pas, mais je ne voudrais pas passer une soirée avec lui. Allez le voir, invitez-le au cinéma, allez passer la soirée avec lui. C'est ça le plan de match. Est-ce que Jésus l'aurait fait? Je veux dire, Jésus l'a fait avec vous. Non, il a passé des... Jésus passe des soirées avec vous devant la télé. Son esprit est en vous, puis il passe des soirées avec vous devant la télé. Il trouve ça tellement plate. Mais il est avec vous. Vous comprenez? Alors, trouvez-vous un ennemi à aimer cet été? Quelqu'un que vous n'aimez pas sur la rue? Le voisin qui est tellement fatigant, vous rêvez de faire exploser sa tondeuse. Allez le voir. Demandez-lui si sa tondeuse a besoin d'un tune-up. Dites-lui, j'aime ça le matin quand tu me réveilles. Ça me rappelle qu'il faut que je passe ma tondeuse. Est-ce que je peux t'aider à la mettre en ordre? Invitez-le au cinéma et aimez-le. Trouvez quelqu'un qui a compris que vous avez de l'amertume contre lui. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui savent que vous avez de l'amertume contre eux? Allez le voir et dites-lui, je sais que tu as vu quelque chose en moi qui a créé une distance. Je suis en colère. Je suis vraiment désolé de ça. Je suis vraiment désolé de ça. Je te demande pardon. Tout n'est pas parfait, mais j'aimerais ça qu'on puisse se rapprocher. Est-ce que Jésus l'aurait fait? Est-ce que Jésus l'aurait fait sérieusement? Parce qu'il l'a fait avec vous, hein? Il l'a fait avec moi. Vous comprenez, Jésus avait toutes les raisons du monde d'être tellement amer, d'avoir créé un avorton comme Yannick qui crachait toujours à son visage et qui se fichait de lui. Est-ce que Jésus l'a fait avec vous? Il l'a fait avec moi. La preuve, je suis chrétien, il est venu vers moi, puis il m'a dit, Yannick, tu me méprises, mais moi, je vais t'aimer plus que tu me méprises. Yannick, tu blasphèmes mon nom, je vais t'aimer malgré tout cela. Yannick, tu n'en as rien à cirer de moi, je vais te sauver tes gaffes. Yannick, tu es en train de te caler toi-même, je vais aller vers toi. Trouvez-vous quelqu'un qui sait que vous avez de l'amertume contre lui, allez le voir, demandez-lui pardon, dites-lui que vous l'aimez, que vous voulez vous rapprocher. Êtes-vous prêt à faire ça? Parce que vous comprenez, l'autre technique, ça va être de lui donner un traité, puis de dire, Seigneur, fou qui croit que tu as existé il y a 2000 ans, tu avais les cheveux longs, tu avais une longue barbe, tu marchais en gougoune, tu étais au ciel, puis s'il ne croit pas en toi, il va aller en enfer. Mais il faut dire tout ça, on s'entend, il faut prêcher l'Évangile. Mais le message va être différent si votre vie demande à être expliquée par l'Évangile. Faites quelque chose de fou avec vos finances. Cet été, là, vous avez collé de l'argent pour les vacances. Prenez 150 piastres là, de vos vacances. Pas 15 piastres, come on. Prenez 150 piastres de vos vacances. Trouvez quelqu'un qui est dans le besoin. Allez le voir. Dites-lui, regarde, j'aimerais ça faire quelque chose de bien pour toi. Tu veux-tu venir dîner avec moi? Je veux juste répondre à un besoin dans ta vie. 150 piastres pour t'aider. En passant, Jésus t'aime. Quand tu auras une chance, appelle-moi. Je vais vouloir t'en parler un petit peu plus. Et si vous manquez d'idées, rassemblez les enfants. Puis dites, les enfants, qu'est-ce qu'on pourrait faire de fou cet été qui ressemble à Jésus-Christ? Prenez une journée dans vos vacances. Moi, j'ai des plans, ça va être super, je ne veux pas voir personne. Vous comprenez, la deuxième fois, on s'en va aller l'eau coude. Ça va être vraiment bien. Le chalet est juste sur le bord de la plage. Il y a 4 personnes qui passent par jour. C'est parfait comme ça. Mais prenez une journée dans vos vacances, puis dites, Seigneur, ça, je veux te la donner. Allez voir quelqu'un dans le quartier, une dame âgée. Vous voyez, j'ai quelqu'un sur ma rue, son gazon, c'est quelque chose. Il coupe son gazon en un mois. Littéralement, le monsieur entreprend la coupe de son gazon en un mois. Chérie, il faut que j'aille le voir tantôt pour lui offrir de couper son gazon demain. Mais Allez voir cette personne. Vous voyez sa maison qui tombe en morceaux. Donnez-lui une journée de vos vacances. Dites à votre épouse, chérie, est-ce qu'on peut reporter ça d'une journée? On va aller toute la famille, on va juste aller peinturer. Appelez-le, demandez-lui quelle couleur il veut, puis arrivez avec la peinture peinturée. Voyez-vous, notre vie va demander une explication. Et si on veut atteindre les gens autour de nous, il va falloir que ça se passe comme ça. On termine l'évangile de Matthieu. Si vous avez perdu ça de vue en cours de route et cette folie qu'il y avait dans la vie de Jésus, vous l'avez perdu de vue, faites-vous un cadeau cet été. Relisez l'évangile. Relisez l'ensemble de l'évangile de Matthieu et regardez le style de vie que Jésus avait. Ce n'est pas juste parce qu'il multipliait des pains que les gens l'ont suivi. C'est parce qu'il y avait quelque chose d'absolument extraordinaire dans sa vie. Et nous allons devoir le faire si nous voulons atteindre le monde autour de nous avec l'évangile de Jésus-Christ. Aller veut dire qu'on va devoir bouger en invitant des personnes à entrer dans nos vies. Peut-être qu'il va falloir que vous révisiez votre horaire. D'accord? Certains d'entre nous, il y a trop de temps passé sur les loisirs. Si vous voulez faire une belle étude dans la Bible, faites une étude de la théologie du loisir. D'accord? Cherchez ça dans la Bible, la théologie du loisir. La seule place que vous allez trouver, et il y en a une, c'est la théologie du repos. Et donc, il y a une telle chose dans les Écritures comme l'idée de se reposer de sa journée. Certains d'entre nous ont dépassé et dépassent quotidiennement ce qui est raisonnable comme repos pour le consacrer à des loisirs davantage. En d'autres termes, c'est de la paresse. En d'autres termes, c'est de l'égoïsme. Certains d'entre vous, vous allez devoir faire du ménage là-dedans. Je veux dire, vendez le Xbox, vendez l'ordinateur s'il faut. Lâchez Facebook si c'est ça le problème. Mais il y a du monde qui sont connectés trop souvent là-dessus, je vous le dis, parce que je vous regarde aller de ce temps-ci. Alors, certains d'entre nous vont devoir faire du ménage. D'autres personnes, regardez, c'est comme ça. Mon horaire est plein. Il n'y a plus d'espace. Peut-être que je dois réviser certaines priorités. Peut-être que je consacre trop de temps au sport, par exemple. Le sport, c'est bien. Utile à peu de choses, mais c'est bien. Moi, j'en ai ajouté dans ma vie. J'en faisais pas. Je commençais à devenir vieux. Je ne dormais plus la nuit. Maintenant, j'essaie de défoncer des planches de bois. Je dors mieux la nuit. Fait que certains ne faisaient pas de sport, ils doivent l'ajouter. D'autres en font trop. C'est utile à peu de choses. Peut-être que c'est ça. Peut-être que ce n'est pas ça que vous devez faire comme ajustement. Changer les priorités. Peut-être que vous devez juste voir ces activités-là d'une autre manière. Et donc, les vivre avec des non-croyants, mais pour pouvoir les inviter chez vous, qu'ils connaissent votre foi. Garder les mêmes activités, mais les vivre autrement. Pour les vivre avec eux et qu'ils entrent dans votre vie. Juste créer l'espace, le dérangement pour dire deux fois par semaine, maintenant chez nous, on reçoit à manger. Puis c'est pas grave si la maison est un petit peu à l'envers. Moi, j'ai dû apprendre ça. On recevait pas beaucoup parce que dans ma tête, c'était jamais correct pour qu'on reçoive. Mais j'ai dû reconnaître que c'était un péché dans ma vie, on appelle ça l'orgueil. Et que je privais des gens d'être bénis, d'être en communion avec nous à cause de ça. Fait qu'on fait ce qu'on peut, puis après ça, on parle du Seigneur. Et on reçoit les gens comme on peut. Mais certains d'entre vous, vous allez devoir faire des ajustements. Vous invitez des chrétiens pour un barbecue. Quand est-ce que des chrétiens devraient être juste avec des chrétiens? Dites-moi donc ça. Peut-être dans la confession de certains péchés, ça pourrait être bon, là. Mais je veux dire, le reste du temps, pourquoi est-ce qu'on devrait être juste entre chrétiens? C'est drôle, cette idée-là. Je veux dire, Jésus faisait ça quand il allait à l'écart, puis encore là, il y avait Judas dans la gang. Mais je veux dire, là, il prenait du temps juste avec eux. Le reste du temps, il vivait sa vie devant tout le monde. Alors, faites pas des activités juste entre chrétiens, de grâce. Vous privez tellement de gens de voir la vie passionnante que vous avez. Ils ont besoin de vous voir parler à vos enfants. Ils ont besoin de sentir une petite tension dans le couple, puis de dire, j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir. C'est une grâce. C'est une bénédiction. Maintenant, notre mission est très, très simple. On les baptise, puis après ça, on leur apprend comment observer tout ce que Christ a fait. Ça veut dire qu'on va devoir le vivre, évidemment, si on veut qu'ils l'observent. Mais on commence par les baptiser. Et je voudrais juste clarifier une chose ici. Si vous attendez de ressembler à Jésus pour vous faire baptiser, vous n'avez rien compris au baptême. Vous n'avez rien compris au baptême. Allez vers quelqu'un. Expliquez-lui que son seul moyen d'être sauvé, c'est de croire en Jésus-Christ pour son salut. Expliquez-lui qu'à partir du moment où elle décide de croire en Jésus-Christ, elle le choisit pour son Seigneur, celui qui va être son capitaine, son chef, celui qui va prendre la tête, celui qui va prendre le gouvernail. Et si cette personne-là dit, le seul moyen pour moi d'accéder au ciel, de me réconcilier avec Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ, et je veux lui obéir, je veux le suivre, je veux qu'il bouleverse ma vie autant qu'il voudra, amenez-le nous, s'il vous plaît, on va le baptiser. Ça finit là. C'est bon? Après ça, on va leur apprendre à ressembler à Jésus. C'est dans cet ordre-là que ça se passe. Parce que le baptême, c'est notre initiation. À nous, comme chrétiens. C'est le moment où on dit, Jésus-Christ, that's all dans ma vie. Mais non, ce n'est pas encore ce qu'on a signé comme contrat. On va l'apprendre dans la suite. Mais ça, on va le faire toute notre vie. Si ça fait 20 ans que vous êtes chrétien, vous le savez. Je veux dire, est-ce que vous êtes vraiment plus prêt à vous faire baptiser aujourd'hui, ceux qui ont 20 ans de vie chrétienne, qu'au début? Vous ne voulez pas entendre la réponse de l'Esprit-Saint là-dessus, je pense. On les baptise rapidement, puis on leur enseigne à observer tout ce que Christ a prescrit. Et pour leur enseigner cela, il va falloir qu'on le vive avec eux. Alors, ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'investisse dans leur vie. Je l'ai mentionné tout à l'heure, on a une 50aine de personnes dans l'Église actuellement qui sont impliquées dans la formation de disciples et le coaching. Par exemple, toutes les deux semaines, je me réunis avec Simon, avec Jacob et avec Matthieu. Ça, c'est un des endroits où moi, je le fais personnellement. Toutes les deux semaines, on lit, on prie, on pleure, on rit. On se dit qu'on est vraiment des nonos puis que Jésus est extraordinaire. Puis on s'encourage à avancer pour la prochaine semaine. C'est ça qu'on fait. Puis on grandit ensemble. Alors, c'est ça que ça va prendre pour faire des disciples. Parce qu'il va falloir leur enseigner à observer tout ce que Jésus-Christ a prescrit. Vous savez ce que ça veut dire, relisez l'évangile de Matthieu. Et donc, chaque jour, je vais chercher dans ma vie à ressembler à ce gars-là qui était tellement wild. Puis après ça, je vais exposer ma vie à d'autres personnes pour leur dire, regarde, c'est comme ça que j'essaie d'être comme lui. Et c'est ça la formation de disciples. On le fait dans l'Église ici à travers la fusion avec Alexandre qui accueille les gens, avec l'équipe qui est en train de monter. On le fait à travers les petits groupes. On le fait bien sûr le dimanche matin à travers la prédication, les chants, notre communion. On le fait selon nos dons. Tout le monde ne va pas s'impliquer dans des triades puis des quoi de formation de disciples. Mais vous savez quoi, lorsque vous êtes dans un petit groupe et qu'il y a un nouveau chrétien qui arrive là ou quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur puis qu'à un moment donné, dans une requête, vous êtes en train de partager un besoin, une lutte et qu'un frère ou une sœur intervient puis il dit, est-ce que tu as pensé à ça, ce que Dieu a fait pour toi puis le réconfort qu'il y a ici puis il y a des larmes qui coulent, mais il y a des larmes de joie puis on est en train de faire des disciples. Voyez-vous, c'est ça qu'on est en train de faire à ce moment-là. Alors, chacun, on va le faire selon nos dons, selon nos capacités. Mais on va tous être en train de poursuivre une seule mission, servir Jésus-Christ. Dernier commentaire. Dernier commentaire. Le verset 20. Je le dis à la blague, mais je suis très, très, très sérieux, d'accord? Jésus-Christ nous donne une promesse absolument extraordinaire. Il nous dit ici, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous savons, parce qu'on connaît le reste du Nouveau Testament, c'est la promesse de l'Esprit, l'Esprit-Saint qui vient habiter en nous. Et donc, si vous êtes chrétien, vous avez l'Esprit de Jésus-Christ qui habite en vous. Il est là, il est avec vous tous les jours. Si vous avez de la difficulté au quotidien, à sentir la présence et l'œuvre de Christ dans votre vie. Si votre vie chrétienne semble manquer de sens et de vie, je vous donne un indice, une piste. Quand Jésus donne cette promesse-là, il la donne dans le contexte d'une mission. Je vous envoie en mission et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tantôt, je l'ai dit à la blague, mais je suis sérieux. Jésus-Christ nous a donné son esprit et son esprit est avec nous toujours, même quand je passe 3 heures devant la télé. Maintenant, mon feeling à moi, après avoir lu Matthieu, c'est qu'il trouve ça vraiment plate. Il pourrait comprendre si c'est un repos, mais au-delà du repos, je pense qu'il trouve ça plate. Puis il est avec moi lorsque je vais me baigner, puis peut-être j'en ai besoin pour me reposer, ou peut-être que je le fais avec des amis pour leur parler du Seigneur. Mais si c'est juste pour moi, je pense qu'il trouve ça vraiment plate. Et il est là. ce qu'il a promis. Il ne vous quittera pas, je vous le dis, on est des baptistes. Il ne vous quittera pas. Il va rester avec vous. Ça se peut, par exemple, qu'il trouve ça vraiment ennuyant. Est-ce que ça se peut qu'à partir du moment où ma vie est consacrée à poursuivre la mission qui m'est confiée, je suis en train de chercher des âmes à gagner. Je regarde mes enfants comme des êtres qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Je regarde mon épouse comme quelqu'un qui a besoin de grandir en Jésus-Christ et je m'investis dans sa vie comme un disciple de Christ à former aussi. Je m'investis dans les relations dans l'Église avec cette passion pour la mission. Je trouve de l'espace, du temps pour m'investir dans de la formation de disciples. Je regarde mes collègues de travail et je fais comme Jésus sur Jérusalem. Je pleure pour le salut de leur âme et je cherche des opportunités à aller prendre un lunch avec eux. Et je vous dis quelque chose, je vous l'assure. Vous allez sentir la vie de Christ en vous. Vous allez sentir que votre vie chrétienne retrouve tout son sens. Et vous allez dire avec moi, quelle vie extraordinaire nous vivons. La gloire absolue de Jésus-Christ est notre mission. Je m'en vais en vacances quelques semaines, mais après ça, on décolle, les amis. On va prier. Seigneur Jésus, je veux te bénir. Te bénir, Seigneur, parce que si ce n'était du fait que tu es entré dans ma vie, je serais en train de poursuivre toutes sortes de passions tellement ridicules et d'appliquer toutes mes énergies à chercher mes petits plaisirs à moi. Mes relations seraient des catastrophes, je le sais. Et tu le sais, tu me connais, Seigneur. Tellement colérique par moments, tellement égoïste, tellement irritable, tellement paresseux, Seigneur. Mais dans ta grâce, Jésus, tu m'as arrêté. Tu as pris une vie qui n'avait pas de sens. Et tu l'as racheté. Tu m'as libéré de la culpabilité du péché, Seigneur, et tu sais combien je pêche encore. Tu m'as libéré, Seigneur, de mon égoïsme. Tu m'as donné un espoir, une certitude pour l'éternité. Tu m'as donné ton esprit qui habite en moi, Seigneur. Et tu m'as donné une vie tellement exaltante, Seigneur. Je te bénis, Jésus-Christ, pour la grâce que tu m'as faite. J'aimerais te prier pour cette assemblée. Ceux d'entre nous, Seigneur, qui trouvent que la vie chrétienne est plate. Ceux d'entre nous qui disent, oui, il est là, mais je ne le sens pas, je ne le vois pas dans ma vie. Oh, Seigneur, viens te révéler à eux qu'ils voient la gloire absolue de Jésus-Christ. Qu'ils comprennent que ta passion, c'est la mission. C'est la mission qui nous est confiée de faire de toutes les nations des disciples. Et Seigneur, révèle-les afin qu'ils entrent dans cette mission. Je veux te remercier pour les professions de foi, Seigneur, qu'on a vues dans les dernières semaines et ça touche mon cœur, Seigneur. Je veux te remercier pour les disciples qui grandissent, les miracles de repentance auxquels j'ai assisté cette année, Seigneur. C'est à pleurer de joie, mon Dieu. Je veux te remercier, Seigneur, pour la grâce que tu me fais de te servir de moi pour avoir un impact dans la vie de quelques-uns, Seigneur. Viens bénir cette Église. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.